sur le même plan que Zman Chérouténou pour Pessah, Zman Simchaténou pour Sukkot. Mais Chérouténou et Simchaténou, on voit bien, c'est dans la Torah. Mais Matan, Zman Matan Torahténou, c'est pas écrit dans la Torah. Oui. Ça n'est pas écrit dans la Torah. Alors, le Zman, c'est un temps. Alors, le Shavuot, c'est un temps. Alors, par opposition, évidemment, avec ce qui se passe pour Pessah et Sukkot. Pessah et Sukkot, c'est 7 jours, et Shavuot, c'est un seul jour. Donc, ce Zman, il a l'air très très limité en fait. Quand on parle de Matan Torahténou, effectivement, c'est le moment où Hachem a donné la Torah. Alors c'est un peu compliqué, il n'a pas donné la Torah, toute la Torah n'a pas été reçue à ce moment-là, dans la mesure où tout vient bien du Sinaï, mais ça vient du Sinaï à travers Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il a pas reçu la Torah le jour du don de Aseret HaDibrot. Il est monté 40 jours pour l'étudier. Et en part ça, il faut savoir que quand il a étudié la Torah, il a pas réussi à l'apprendre. Ça n'a pas marché. Comme il avait fait des efforts, finalement, Hachem a décidé de la lui donner. Il lui a donné la Torah. Sans que ce soit donc le fruit de son travail. C'est aussi une chose importante de savoir, probablement que si Moshe ne pouvait pas, c'est que ça fait partie de la condition humaine de ne pas pouvoir apprendre la Torah par soi-même. Il faut absolument que Hachem nous aide, en fait, et nous la donne d'une certaine manière. Alors, on peut demander qu'il nous aide, demander qu'il nous la donne, et il la donne ou il la donne pas.
Je crois
Alors,
que c'est
au
pardon.
côté.
Et je crois que Claude attend pour rentrer. Claude Meyer.
Et quoi, si est
Et Claude Meyer, il attend pour qu'on la laisse, qu'on lui permet de
Mais
rentrer.
malheureusement, c'est toujours le même problème. Je la vois, elle n'est pas elle n'est pas dans la salle d'attente pour l'instant.
Oh, je
Elle
vais
n'est
lui
pas dans
mettre
la
un
salle
mot.
d'attente, je ne peux pas la faire entrer. Je n'ai pas les moyens de la faire entrer. Oui? Peut-être c'est possible, mais chez moi, ce n'est pas affiché qu'elle est sur la salle d'attente. Je n'ai personne dans la salle d'attente. Ça viendra peut-être, il faut. Ou peut-être qu'elle se reconnecte, peut-être. Désolé. Pardon? Ce Zman du don de la Torah, il a été fixé, et il était fixé, on peut dire, presque avant toute chose. Il y a, comme tout le monde sait, dans le récit de la création, on parle de Yom HaShishi, alors que tous les autres jours sont présentés sans le He HaYediyah, celui-là, il est présenté Yom HaShishi, alors que on présente Yom Revi, pas Yom HaRevi, et Yom HaShishi, ah, voilà, ça voit éventuellement quelque chose, voilà, ah non, c'est Gorkos. Voilà. Donc là, c'était dans la... Voilà. Mais Claude n'est toujours pas dans la... Ouais, tu boum. Ah, Claire Bachmeyer. Tous ces noms. Quand les gens sont dans la waiting room, c'est facile de... Mais autrement, on ne peut pas. Je peux pas. Alors. Il y a quelque chose d'assez étrange. C'est que pour nous, on a l'impression que Matan Torah, ça a eu lieu au Har Sinaï. C'est-à-dire, Hachem a parlé avec Moshe Rabbeinu, après avoir parlé avec les Bnei Israël directement, à partir du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï. Et ça, c'était, en vérité, nous savons, on avait déjà vu, que ce n'était pas le 6 Sivan, c'était le 7 Sivan, parce que Moshe Rabbeinu avait décalé. On ne va pas revenir là-dessus. Bon, mais après, qu'est-ce qui s'est passé après le 7 Sivan? A priori, Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu, la Claude. Voilà. Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu, mais on a lu Shabbat que Hachem a parlé avec Moshe Rabbeinu, Bamidbar, et aussi Be'ohel Moed. L'Ohel Moed, le tabernacle, le Mishkan, il était dans le Midbar, on le sait. Et donc le mot Midbar, on n'a pas besoin de le lire, on sait très bien qu'on est dans le désert du Sinaï depuis longtemps. Donc que veut dire ce Bamidbar? Ça veut dire que c'est autrement que ce que ça se passait avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire entre le 7 Sivan et la date qui nous est donnée dans la parasha de Bamidbar, qui est le premier Iyar. Bon. Premier Iyar, comme je vous crois, a commencé à parler avec Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed. Il ne pouvait pas parler avec Moshe Rabbeinu dans l'Ohel Moed avant cela. Il n'y avait pas de l'Ohel Moed. Alors, de là, on apprend que quand on nous dit que c'était Bamidbar, ça veut dire que jusque-là, Hachem a continué de parler avec Moshe Rabbeinu Behar Sinaï. C'est-à-dire que pendant 10 mois, un peu plus que 10 mois, quand je beaucoup à parler avec Moshe Rabbeinu, à partir du Sinaï, du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï. Donc, si vous voulez, la communication entre Hachem et Moshe Rabbeinu, de cette Sivan, bon, elle se poursuit toujours à partir du Har Sinaï jusqu'au premier Iyar de la deuxième année, donc. Et à ce moment-là, elle continue, la communication continue dans le Ohel Moed. Et ça va très très bien d'après le Ramban, qui dit que, comme on avait vu déjà, que pour Ramban, le Mishkan, c'est un Har Sinaï portatif, en fait. Quelque part, il se continue ce qui s'est fait dans le Har Sinaï jusque-là de façon continue. Il n'y a pas eu de rupture. C'est juste que nous, on a un trou, en quelque sorte, sur qu'est-ce qui s'est passé justement dans ces 10 mois-là. Qu'est-ce qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu pendant ce temps-là? On n'en sait rien. Dans ce temps-là, Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï. Il est monté, remonté. Il a descendu les Loukhot à Yom Kippour. Et Hachem lui parle toujours du Sinaï. Et même quand il est en bas, Ça veut dire que tout ce qu'il a reçu comme enseignement, comme ordre de construire le Mishkan, etc., Hachem lui parle toujours depuis le Sinaï, depuis le Har Sinaï. Bon, tous les deux sont Sinaï, mais un, c'est le Midbar. Depuis le Har Sinaï, depuis la montagne du Sinaï. Tout a été dit depuis la montagne du Sinaï.
La première fois que la chaîne commence à parler de toi avec mon cher Abdelhi, c'est après les vagues.
Commence à parler quoi? Où?
Avant les vagues.
Avant le Tetzivan, il lui a toujours parlé. Ils sont sortis d'Égypte. Hachem lui parle et il a dit au Bnei Israël d'avancer dans la mer. Et après, il les a guidés à Mara, etc. Ils se sont déplacés. En fait, ils sont toujours dans le Midbar Sinaï, en fait, mais Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Je pense que les Bnei Israël, ils ont dû camper plus longtemps. Hachem parle toujours à Moshe Rabbeinu à partir du Har Sinaï.
Chaque fois, c'est les premières fois, c'est les deuxièmes
On
fois.
vient à Loukhot, évidemment.
Le parcours.
C'est-à-dire, c'est même pas les Loukhot, ça veut dire. Shavuot, c'est quand Hachem a parlé au Bnei Israël. Il leur a donné la Aseret HaDibrot. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours pour étudier la Torah et pour recevoir les Loukhot. Mais il a reçu les Loukhot, enfin, il ne les a pas reçus, il les a arrachés à Hachem, et ensuite il les a brisés. Ensuite, il a dû remonter, etc., jusqu'à ce qu'il obtienne le pardon à Kippour. Et à Kippour, il est descendu avec les deuxièmes loukhot. Donc, Shavuot, c'est un moment bien précis dans le don de la Torah. C'est le grand moment, puisque c'est le moment où, d'une certaine manière, Hachem leur a donné la Torah d'une façon un peu compacte, sous forme des Aseret HaDibrot, quelque part. On a l'impression, enfin, c'est pas l'impression, d'après les Midrashim, ce don de la Torah, s'il avait été reçu jusqu'au bout par les Bnei Israël directement, c'était la fin de l'histoire. Tout était parfait, arrivé. Mais bon, c'est les Bnei Israël qui font l'histoire. Ils ont fait l'histoire en disant, nous, on veut pas, on veut continuer avec Moshe. Ça, c'est pour le Zman. Alors, bon, c'est clair pour tout le monde. Le Zman était prévu 6 Sivan. Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de sa propre initiative et Hachem lui a dit, Yasher Kokacha, tu as bien fait d'ajouter un jour. Comme ça, les Bnei Israël sont aussi du côté du don de la Torah, pas seulement du côté de la réception de la Torah. Matan, alors ça explique pourquoi c'est Matan, Torah Teinu. Parce qu'évidemment, nous, de notre côté, on aurait dû dire Zman Kabbalat Torah Teinu. Mais étant donné que nous sommes aussi du côté du Matan, et que c'est finalement le grand chidouche, c'est que nous sommes du côté du Matan. Parce que être du côté de la réception, c'était presque normal. C'était, et du coup, ça voulait dire qu'Hachem faisait tout. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a construit quelque chose. À savoir, on s'est mis du côté du don de la Torah. Et de ce point de vue-là, Shavuot est très singulier parce que quand on dit Zman Chérouteinu sur Pessah, on n'y est pour rien. D'accord? À Pessah, tout ça a été fait par Hachem. Et les cabanes de Sukkot, c'est la même chose. Construire les cabanes. Donc le seul des trois régalim où on fait quelque chose, où les Bnei Israël ont fait quelque chose vraiment, c'est effectivement Shavuot. moment-là, on y est pour quelque chose, si on peut parler comme ça, dans l'opération, en quelque sorte. Alors, ce qui est important à voir ici, c'est que bien que le fait que Shavuot soit un seul jour donnerait à penser que Matan Torah, c'est un seul jour, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus. Matan Torah, c'est un processus qui dure, et qui dure en fait jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on dit que c'est Torah Teinu, pourquoi on dit que c'est Matan Torah Teinu? La Torah, c'est la Torah d'Hachem. Ce qui a été donné, ce n'est pas notre Torah. Ce qui a été donné, c'est Torah d'Hachem. Et en fait, la Torah d'Hachem en question, à un moment donné, dans le Navi Malachi, elle est appelée Zichu Torah de Moshe. Elle est appelée Torah de Moshe. La Torah de Moshe. Alors là, elle demande, ça veut dire la Torah de Moshe, c'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem. Alors on dit que elle est devenue la Torah de Moshe parce que Moshe Rabbeinu l'a intégrée complètement. Il est quasiment devenu Torah, Moshe Rabbeinu. Et la Torah lui a été donnée à lui. Et Chazal disent que Moshe Rabbeinu, par un acte de générosité, il a donné la Torah au Bnei Israël. C'est un acte de générosité. Il aurait pu la garder pour lui. Qu'est-ce que ça aurait été la Torah gardée par Moshe? La Torah, elle est pas, le concerne pas seulement lui. Bien entendu, dans la Torah, c'est marqué d'abord le Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui vont faire les mitzvot, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il aurait gardé la Torah pour lui? Ça veut dire que lui, Moshe, il aurait très bien pu garder la Torah et donner au Bnei Israël uniquement les lois résultant de la Torah. Il ne leur donne pas la source. Il dit, voilà ce que vous devez faire, faites ceci, faites cela, etc. Sans leur donner accès à la Torah elle-même. C'est ce que font la plupart des prêtres dans toutes les religions, etc. Ils gardent une espèce de trésor à partir duquel ils parlent et ils ordonnent à leurs ouailles, aux gens qui dépendent d'eux, de faire ceci ou faire cela. Et Moshe Rabbeinu a eu la générosité de donner la Torah au clan d'Israël. En vérité, quand on regarde un peu plus près, si on se rappelle, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'écrire la Torah. Il a écrit le Sefer Torah, et quand il a eu fini de l'écrire, eh bien, il voulait le donner à la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, d'abord, c'est sa tribu à lui. Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe à Lévi. Ouais, il est Lévi. Et comme vous savez, quand il a voulu le donner à la tribu de Lévi, toutes les tribus ont protesté. Il n'est pas question que tu donnes la Torah à la tribu de Lévi uniquement. Et donc, Moshe Rabbeinu a dû écrire en tout 13 sifrei Torah, un pour chaque tribu et un pour mettre dans le Aron HaKodesh. Dans l'Aaron, il y avait les Luchot, les deuxièmes Luchot, il y avait les brisures des premières et il y avait un Sefer Torah. C'est le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Quand il a écrit la Torah, il s'attendait à la donner, il voulait la donner à la tribu de Lévi, pas parce que c'était sa tribu, mais parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu des gens qui sont dégagés de toute autre obligation et qui doivent se consacrer à l'étude de la Torah et à l'enseignement de la Torah. Donc c'est logique de donner la Torah à ceux qui doivent l'étudier et l'enseigner. Mais les autres tribus n'étaient pas d'accord. Elles ont dit, nous aussi, on veut avoir accès à la Torah, nous aussi, on veut développer la Torah à notre manière, en fait. La Torah, elle se développe en fonction de ceux qui l'étudient. C'est pour ça que vous avez l'opinion de Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Yoshua, l'opinion de Rabbi Akiva, l'opinion de Rabbi, etc. Ces maîtres-là ont bien entendu étudié toute la Torah, mais ils ont étudié avec ce qu'ils étaient eux-mêmes. C'est marqué dans Pirkei Avot, la lecture de Raphaël de Balojine, que les divrei Torah, ce sont des braises. Et le feu qu'on peut en tirer dépend du souffle qu'on aura. D'accord? C'est en soufflant sur les braises qu'on peut fabriquer du feu. Donc la Torah, elle est la résultante du souffle. C'est pas rien, pas rien. Le souffle, c'est d'une certaine manière la neshama, quoi, quelque part. On va insuffler je vais mettre de ma neshama dans la Torah. C'est ma façon à moi d'étudier la Torah et de développer la Torah. Et chacun va développer à sa manière. Et pour être sûr que c'est pas n'importe quoi, bien entendu, ça va être critiqué par tous les autres. Quand quelqu'un va dire quelque chose, les autres, ils vont amener une sorte de preuve pour essayer de détruire ce qu'il a dit. Et si ça tient, ça tient. Consensus. Ou des endroits où c'est pas consensus, mais la halakha est fixée. Finalement, bon, il y a, justement, pour ça, la Gemara, par exemple, c'est pas un livre de décision. Il y a très peu de décisions dans la Gemara elle-même. On donne toutes les opinions. Et à certains endroits, la Gemara dit halakha est comme celui-là. Mais la plupart du temps, la halakha, elle est décidée en dehors de la Gemara, par les maîtres ultérieurs, les Géonim, les Rishonim, aujourd'hui les Poskim, vont décider à partir de la Torah, en disant, on va faire comme celui-là. Il y a des klalim, il y a des règles dans l'opposition entre celui-là et celui-là. La halakha, elle est comme celui-là dans tel et tel domaine, et là, dans tel et tel autre domaine, c'est comme l'autre, etc. Là, c'est évidemment très bon, c'est connu tout ça. Donc c'est ça la Torah. C'est fondamental, il est fondamental que chacun contribue, parce que c'est comme ça qu'on aura vraiment développé la Torah.
Autant de Torah que d'individus.
C'est pas des Torahs différentes, c'est les façons de vivre la Torah et donc de la ressentir, de l'interpréter, etc., à sa manière. C'est pour ça que avant le Shulchan Aruch, même la décision, la halakha, elle n'était pas la même à Paris et à Orléans. Et c'est bien que sur certains domaines, Rashi est le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, et d'autres de ses petits-fils, Rashbam et d'autres, ils ont décidé contre lui. Alors, ils disent comme ça. Maintenant, comment ils se conduisaient, j'en sais rien. Parce que ils peuvent très bien dire la halakha d'après nous, c'est comme ça. Mais bon, avec le grand-père qu'on est, on est obligé de faire comme Rashi a dit. Mais j'en sais rien. Je sais pas comment ils faisaient, concrètement. Je me rappelle pas, j'étais pas là-bas. J'étais pas tout le temps là-bas. Alors, c'est Torah Teinu. Parce qu'effectivement, la Torah, c'est notre Torah, parce que nous sommes. Même ce qui nous a été donné, c'est déjà donné pour nous, en fait. Le nous dans Torah Tenu, il est un peu difficile à expliquer au moment où la Torah est donnée. Aujourd'hui, on peut dire Torah Tenu. Mais c'est le Zman de Torah. Bon, c'est le. Elle est devenue, c'est fondamental, elle est devenue notre Torah parce que ce sont les hommes qui la développent. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de David Améler, c'est pas en général la Torah qu'on connaît. On connaît les Tehillim, etc., les chants de David Améler. Bien entendu, il décidait aussi, il était un roi, il a dû décider des tas de choses. Mais bon, c'est pas. Oui, mais. Pardon?
Comment on peut mettre ensemble les deux choses quand on dit que chacun est unique et qu'on n'a pas inventera quelque chose de sa façon de la vérité, et le fait qu'on dise que s'il n'a pas le temps ou bah, si on donne de l'argent, l'essentiel c'est qu'elle soit étudiée, qu'elle soit travaillée et que du coup si quelqu'un il n'a pas le temps ou il n'a pas envie ou il a beaucoup d'argent, il peut venir. C'est pareil, c'est la même.
Ouais.
Vous donnez la possibilité aux autres, vous pouvez la voir avec vous.
Bon, alors il y a la composante que c'est lui, quelque part, l'autre va développer évidemment. Lui, il aura un mérite dedans, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que on va pas produire le, il aura pas produit sa spécificité dans la Torah. Il aura participé à l'expansion de la Torah, mais il n'aura pas contribué, si on veut, à exprimer sa vision de la Torah. Donc, parce que bon, il n'a pas produit la Torah. D'ailleurs, lui non plus, il va pas être, en tout cas pas directement, transformé par la Torah qu'il étudie. Normalement, la Torah, elle doit nous bouleverser, donc elle doit nous transformer. Mais celui qui entretient quelqu'un, alors il a un mérite, donc il va être un peu transformé par son mérite, en fait, mais il n'est pas directement transformé par les paroles qu'il a dites, en fait. Donc c'est ça qui est un peu difficile, c'est-à-dire que il y a à la fois le mérite complet d'avoir participé à l'expansion, et d'un autre côté, il n'y a pas d'effet réflexif sur lui-même de l'étude de l'autre. Sauf quand c'est explicite qu'il dit qu'il lui donnera le mérite de sa Torah avec Issachar Zvulun, mais ça, je n'ai jamais vraiment compris exactement comment ça fonctionne. Je veux dire, toujours en termes de mérite. En termes de mérite, ça ne pose pas de problème. Mais en termes de transformation de la personne, ce n'est pas du tout évident que je ne vois pas même comment c'est possible. C'est clair? C'est bon? La paracha de Shavuot, elle est écrite dans Parashat Emor, elle est aussi écrite dans Parashat Re. Donc une fois dans Sefer Vayikra, une fois dans Sefer Dvarim. En fait, c'est pas écrit de la même manière. Ce qui frappe surtout, c'est que Shavuot, comme son nom l'indique, c'est la fête des semaines. Dans Parshat Emor, et c'est ce que nous faisons, d'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est 47 jours dans l'Omer, à l'Omer, qui sont 6 semaines et 5 jours. D'accord? Donc, on a compté les jours et les semaines. La fête, elle s'appelle seulement Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est pas Chag, Hayamim ve'Shavuot, d'accord? C'est seulement Chag HaShavuot. C'est la fête des semaines et pas la fête des jours. Pourquoi ce n'est pas la fête des jours? Pourquoi est-ce que c'est la fête des semaines? Et d'ailleurs, dans Parshat Re'eh, il n'est pas mentionné du tout le décompte des jours. Dans Parshat Re'eh, on ne compte que les semaines, pas les jours. Ce qui est très compréhensible puisque la fête s'appelle Shavuot. C'est quoi la différence entre compter les jours et compter les semaines? Je veux dire, je comprends bien que le compte des semaines est plus court que le compte des jours, mais en vérité, on peut poser la question à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est les semaines qui sont principalement le sujet et pas les jours, alors qu'on compte les jours aussi bien que les semaines? En d'autres termes, c'est quoi la différence entre les jours et les semaines? Je crois qu'on en a déjà parlé. Sinon, on aurait dû.
Il y a le Shabbat qui clore la semaine.
Pardon?
Et il y a le Shabbat qui
Pardon?
clore la semaine.
Chaque semaine, il y a un Shabbat. Il y a le Shabbat qui clore.
Ok, d'accord. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça. Pardon? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on a vu. Une semaine. Un jour, c'est un phénomène de la nature. Vous avez une partie diurne, une partie nocturne, et quand on prend une partie nocturne et une partie diurne dans cet ordre ou dans un autre ordre, peu importe, ça fait un jour. Donc, le jour, c'est une notion visible, existe dans la nature. Dans la nature, il n'y a absolument rien qui indique la semaine. La semaine, c'est une convention. C'est une convention, elle est attestée très vite, puisque effectivement, la semaine en tant que telle, bah, elle est là au moment de la création du monde. D'accord? Ça veut dire Yom HaShvi, et puis après, il n'y a pas de Yom HaShmini dans la création du monde. Yom HaShvi, c'est Shabbat, et après, il n'y a pas de Yom HaShvi, Shemini, pardon, pas de huitième jour. Donc, justement, comme la semaine, c'est une construction humaine, si vous voulez, c'est un peu comme l'inné et l'acquis, quoi. Ce qui est donné, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la construction humaine. On compte les semaines, parce que dans les semaines, il y a une notion. Effectivement, comme vous disiez, il y a quelque chose de fondamental dans la semaine qui est le Shabbat. Il n'y a pas de semaine sans Shabbat. Shabbat sera le point culminant de la semaine. Mais la semaine, c'est quelque chose d'artificiel, si on peut parler comme ça. Alors, il se trouve que ça a à voir avec le chiffre 7, etc. Il joue un rôle fondamental pour nous. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs que la notion de semaine, elle a bien pris, quoi. On parle d'une notion de semaine un peu dans le monde entier. Pas seulement chez les Juifs et les musulmans et les chrétiens. Je pense qu'en Chine aussi, on parle d'une semaine, encore, je ne suis pas sûr. On va demander à quelqu'un, semaine prochaine, 2 semaines.
Mais ce qui est bizarre, c'est que la semaine qui se clore par le Shabbat, on n'a pas à penser qu'il y a autre chose après. On nous répète qu'il faut toujours rester dans le jour du Shabbat et ne pas penser au-delà. Or là, on est en train de
Non, je
compter
suis
pour aller au-delà.
c'est une façon de dire que la semaine est une entité pour soi. Elle est fermée sur elle-même au point que pendant le Shabbat, tu n'as pas le droit de penser à ce que tu vas faire le lendemain. Bon, c'est fini. D'abord, c'est une autre semaine. C'est quasiment un autre monde, en fait. Et donc, on compte les semaines. Alors, comme on a vu dans la Torah, on compte les semaines et on définit ce 50e. Après les 7 semaines, le jour d'après, c'est Shavuot. En fait, dans la parashat Ré, le pasouk dit: Vezachamta ki eved haïta b'Mitzrayim. C'est-à-dire, on parle de Shavuot, on te dit, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Mais pourquoi, qu'est-ce que ça a à faire? Cette phrase-là, elle était dans le. Normalement, elle devrait être à Pessah. Alors, on dirait, on va toujours s'en rappeler. Et c'est peut-être en rapport avec ce qui vient après, parce que la phrase, elle continue. Le shamarta ve'asita et ta chukim ha'ele. Tu garderas et tu pratiqueras ces chukim-là. Rashi dit, pourquoi c'est mentionné ici? Rashi dit, almenatken piditicha shetishmor veta'aseh et ta chukim. Si je t'ai racheté en Égypte, je t'ai acheté à Paro, dit Hachem. Quand je t'ai racheté, c'est pour que tu respectes ces choukim-là. De quels choukim on parle? Où est-ce qu'il y a des choukim? L'Amek d'Avar, il dit, mais il n'y a pas plus de choukim à Shavuot qu'à Pessah ou à Sukkot. De quels choukim est-ce qu'on parle? Alors lui, il répond, l'Amek d'Avar, il répond, choukim, en fait, c'est des principes généraux dont on peut déduire certaines mitzvot, etc. Et du coup, ça veut dire que ici, dans notre sujet, sur notre sujet, ça vient dire que ce jour-là, c'est un jour qui est particulièrement fait pour la Torah, au sens où il faut réfléchir particulièrement à ce qu'il y a de spécifique ce jour-là. C'est un Rashba qui dit, il y a un Rashba qui dit que chaque jour, il faut toujours réfléchir particulièrement à ce qui, ce jour de la semaine-là, a été créé par Hachem. C'est-à-dire le jour où Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, pour réfléchir en termes de lumière, le Yom Rishon. Il faut réfléchir en termes de lumière. Le jour où Hachem a créé les animaux, il faut réfléchir en termes du monde animal. Le jour où Hachem a créé l'homme, Erev Shabbat, il faut réfléchir en termes de autour du sujet l'humanité, l'homme. Rajbo. Rajba. Il dit que ce jour-là, on parle de ce fameux jour, 50e jour, ou dans, ça veut dire, ce jour, c'est un jour particulier où on doit réfléchir sur les choukim et les accepter, c'est-à-dire sur les principes généraux. C'est un jour de réflexion très théorique sur la Torah. Pour ça que c'est un jour où il faut particulièrement s'arrêter en quelque sorte pour bien réfléchir, plus particulièrement à Shavuot. Et il dit que le Hamek d'Avar, il dit que c'est la raison pour laquelle les Chachamim, ils ne disent quasiment jamais, une fois je crois, ils disent Shavuot. Ils appellent ça Atzeret. Atzeret, c'est la chaîne s'arrêter. Le stop en Israël, c'est Atzor. Ouais. C'est un arrêt. S'arrêter pour bien réfléchir, quoi. S'arrêter un peu dans ses occupations pour réfléchir. Réfléchir à tout ce que, en particulier, en fait, ce que nous avons accepté ce jour-là, comme il dit, on était un peu comme une kala sous la choupa qui accepte un nouveau mode de vie, en fait. Et c'est pour ça que les Chachamim l'appellent Atzeret. Alors, ces Chukim, d'une certaine manière, on pourrait dire que, contrairement à ce que, bon, évidemment, contrairement à ce que dit la Megdavar, il y a un chok particulier, dans la mesure où les autres fêtes, Pessah et Sukkot, on nous dit pourquoi on le fait. Mais ici, tu vas fêter les semaines. Pourquoi? D'après la Torah, il n'y a aucune raison de faire une fête. Aucune raison. Non, il n'y a pas de raison. Mais non, c'est des korbanot. Le texte ne dit pas ça. Le texte d'Enrée, il ne parlera pas de ça. Non, c'est autre chose. Enfin, c'est vrai que le korban de. Mais bon, alors, c'est le korban, c'est un monde spécial, le korban spécial à Shavuot dont on va parler après. Mais il n'y a rien. Alors, il y a quand même quelque chose, certains relèvent ça. Moi, je trouve que c'est très parlant. Juste après, dans Parashat, juste après Shavuot, juste après que ce soit marqué à Hukim Ha'eleh, il y a un passouk, vous savez bien, après Shavuot, qu'est-ce qui vient dans la Parashat? Enfin, ça dépend de la chronologie, ça va selon la chronologie. Après Shavuot, c'est Rosh Hashanah. Pour dans le texte, après Shavuot, il vient Rosh Hashanah. Mais entre Shavuot et Rosh Hashanah, il y a un passouk qui semble ne rien avoir avec les Moadim, n'a rien à voir. Ce passouk, il dit que quand tu vas moissonner, tu devras laisser les coins, un coin de ton, de tes champs sans le moissonner. Tu vas devoir, si tu as des épis de blé qui tombent quand tu mets en gerbe, tu n'as pas le droit de les ramasser. Et si tu oublies une gerbe quand tu ramasses tes gerbes, tu ne peux pas revenir en arrière et la récupérer. Tout ça, c'est pour les pauvres, c'est pour les étrangers qui n'ont pas de terrain, c'est pour la glane. Les trois mitzvot très très importantes, bon, qui viennent limiter le pouvoir du propriétaire du champ, quand il a travaillé, etc. Et quand il est en train d'engranger, enfin de ramasser le produit de son travail, on lui dit, attends un instant, tu n'es pas le maître ici. Tu dois laisser un coin de ton champ non moissonné, tu dois laisser le chicra, PA, etc. Alors on peut dire que ça, ce sont des lois qui sont des lois horizontales, c'est-à-dire des relations entre les hommes. Alors que Shavuot, par exemple, c'est une relation avec Hachem, une relation avec la Torah. Le don de la Torah, c'est la verticalité par excellence. Et on peut dire ici, si on peut dire les Chukim Ha'eleh, c'est ceux qui viennent là maintenant. Hachem dit, ce qui est plus important que les korbanot, que tout ce que vous allez amener à Shavuot, c'est de respecter ces lois-là. ces lois-là, le Ketchikaupea. Ça, c'est des Hukim. C'est un principe général là, dont on déduit que voilà, il faut réfléchir au bien-être du pauvre, de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas de terrain, qui n'ont donc qui ont des problèmes pour se nourrir, etc. Donc ça, c'est une des choses qui sont dites. Et du coup, on comprend très bien avec ça la lecture de Sefer de Ruth à ce moment-là. Parce que Ruth, c'est une glaneuse. Ruth, c'est la fameuse princesse Moabite, qui épouse un prince juif, en fait. C'est la tragédie, elle perd son mari, perd leurs biens, etc. Et puis finalement, elle part avec sa belle-mère. La preuve que les belles-mères et les brus s'entendent des fois. Bah, surtout quand le mari de la fille n'est plus là. En tout cas, voilà, on a deux exemples. Il y en a une qui a suivi, une qui n'a pas suivi. Il y a Orpa qui a mis les voiles, quoi. Elle est partie. Mais bon, elle était partie au départ, elle n'a pas tenu la distance. Et donc, Ruth, elle arrive et quand elles arrivent dans le pays d'où Naomi était originaire, elles sont complètement fauchées. Hein. Elles n'ont pas un sou. Et Naomi va envoyer Ruth glaner. Et elle va être repérée par Boaz, etc. Et Naomi va arranger tout ça. Et cette glane, en fait, elle va déboucher sur la naissance d'un enfant de Ruth. Elle a eu avec Boaz. Et cet enfant-là, c'est l'ancêtre du roi David. Si vous voulez, le Mashiach, il vient du respect par Boaz dans ses chants des halakhot de la glane, le Ketchikaupea.
Non.
Comprendre que ce soit vraiment très important. Mais le Mashiach est à ce prix-là. Sur Shavuot, on dit aussi que c'est Chag HaBikurim. Alors, vous savez ce que c'est que les Bikurim? Les Bikurim, c'est les prémices des fruits. Donc, il y avait une mitzvah d'amener à Yerushalayim les prémices des fruits, donc des récoltes. On faisait une grande, grande fête, c'était un grand cortège, etc., avec musique et des chants, des grandes joies. Quand les gens venaient, les agriculteurs venaient, ils amenaient leurs prémices, leurs bikourim. Et le commencement de la période où on amène les bikourim, c'est Shavuot. Mais en fait, quand dans la Torah on parle de Bikurim, il est marqué sur Shavuot que c'est Chag HaBikurim, c'est pas du tout de ça qu'on parle. D'accord? Vous savez bien probablement. De quel Bikurim est-ce qu'on parle? Pas du tout de cela. Les Bikurim dont on parle dans la Torah au sujet de Shavuot, c'est la chose suivante. Bon, les céréales, il faut les semer, mais il faut les récolter. Et comme on a vu à l'époque de Pessah, les céréales, elles sont majoritairement, elles ne sont pas mûres. Elles ne sont pas récoltables. La seule céréale qui est un peu mûre, c'est l'orge. Et l'orge, dans la Torah, l'orge, c'est une nourriture animale. Bon, ils ne savaient pas que l'orge, ça sert à faire du junk. Il y a beaucoup de gens qui font leur chant avec de l'orge. En tout cas, en Eretz Israël, le blé n'est pas encore mûr. La nouvelle récolte, elle, qui est possible, c'est seulement avec l'orge. Il y a dans la Torah un interdit de manger de la nouvelle récolte avant une certaine date. Et la date en question, c'est la date où du jour où on amène le Homer au Beth Amikdash, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah. C'est un interdit de Hadash, c'est-à-dire interdit de la nouvelle récolte. Une fois qu'on a amené le Homer, alors on peut manger de la nouvelle récolte. Monsieur, madame, tout le monde peuvent manger de la nouvelle récolte. En d'autres termes, à partir du deuxième jour de Pessah, parce que bon, même si on n'amène pas le Homer, à la date où on aurait pu l'amener, ça fait le même effet, on peut manger à partir de là, on peut manger de la nouvelle récolte. C'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas vrai au Beth Amikdash ou au Mishkan, au Beth Amikdash, ce n'est pas vrai. Au Beth Amikdash, il n'y a quasiment jamais, rien. Dans un korban tzibour, il n'y a jamais de korban avec autre chose que du blé. Donc, on n'amène pas un corban en orge. Même dans les corbanotes privées, c'est ultra rare. Très, très rare. Mais en gros, c'est les corbanotes qui sont amenés. Donc, les corbanotes, ça s'appelle les menachot. C'est-à-dire, c'est les galettes là, qui sont faites avec de la farine et de l'huile. En gros. Ces galettes, elles sont faites avec du blé. Et le blé, lui, la récolte de blé, la nouvelle récolte de blé, n'est consommable au Beth Amikdash, c'est-à-dire donc pour en faire des menachot, qu'à partir de Shavuot. Pourquoi? C'est le matir, ce qui va permettre, de même que ce qui permet pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est le Homer, de la même manière, pour le Beth Amikdash, ce qui permet la nouvelle récolte, c'est ce qu'on appelle Shtei Alechem. Shtei Alechem, les deux pains, c'est une partie du Korban de Shavuot. Shavuot, il y a un Korban particulier qui est, on amène deux pains et des kvassim et des agneaux. Ces deux pains, ils sont tout à fait spéciaux. Ils ont deux grandes caractéristiques spéciales. C'est que premièrement, ils sont du chametz, alors que les mnachot sont jamais chametz. Pour une fois, les mnachot du tzibour, il y a un korban qui a fait exception. C'est le Korban Toda. Quelqu'un, la dernière fois que vous étiez en prison et que vous êtes sorti, vous devez apporter un korban qui s'appelle korban Toda. D'accord? Bon, donc si j'étais en prison, tant pis, si qu'on se remet de maladie, qu'on, etc. On apporte un korban qui s'appelle Toda, dans lequel il y a des menachot. Une moitié sont, une partie sont en hametz et une partie sont en matzot. Mais le reste du temps, toutes les menachot sont toujours matzot, sont jamais hametz. On n'a pas le droit d'amener du hametz, a priori, dans le Beth Amikdash. L'exception étant le jour de Shavuot. Et la nouveauté, c'est que ces jetés Alechem-là, ils sont faits avec la nouvelle récolte. Et à partir de là, toutes les menachot vont pouvoir être faites avec la nouvelle récolte. Et quand dans la Torah, on parle à Shavuot de Bikurim, les Bikurim, ce sont les jetés Alechem. En quoi est-ce qu'ils sont Bikurim? En quoi est-ce qu'ils sont premiers? Bechor, Bikurim, c'est la chaîne Bechor. C'est la même racine que le premier-né. En quoi est-ce qu'ils sont Bikurim? Ils sont Bikurim parce que c'est la première, ce sont les premières menachot qui sont faites en blé. Bon, c'est premier au sens de mincha en blé. Okay. C'est pour ça que c'est appelé Bikurim. Bikurim qui sont écrits dans Shavuot, c'est jeté à l'air. Quoi?
La chanson de la mission paraît
Oui, non, mais ça c'est les Bikurim, pas les, ça c'est les prémices. Mais ça, on a le droit d'amener à partir de Shavuot. Mais quand on parle dans la Torah des Bikurim,
de
Bikurim, etc., Rashi dit, Jeté Alechem. Bon, je ne peux rien y faire, c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Pardon? Oui, il est le matir. Ce qui permet la nouvelle récolte pour monsieur, madame, tout le monde, c'est le Homer. Et pour le Beth Amikdash, c'est les Jeté Alechem. Et c'est ça qu'on appelle dans la, dans le, dans, c'est pas ce qu'on appelle les Bikurim, c'est pas ça en général. Mais dans le contexte de Shavuot, c'est de ça qu'il s'agit. Marqué dans le dans Parchat Emor, chapitre 23, pasouk 17. Mimoshvotechem taviyu, vous amènerez de vos résidences lechem tenufa, shtayim, du pain qu'on va balancer, deux, qui sont shnei esronim solet tiena, ce sera 2 dixièmes de hefa, ce sera de la fine, de la fleur, super tamisée, chametz, Tiafena, elles sont boulangers Hametz, Bikurim Lachem. On voit déjà dans le Passouk, si on parle de Jeté Alechem. Bikurim Lachem. Pardon? C'est un korban? Oui, c'est le korban de Shavuot.
Merci.
Non, Moshpotechem, ça veut dire Vlom Mikhouts Laaretz. Bikurim, alors Rashi dit Rishona le Cholam Nachot. Pourquoi c'est appelé Bikurim? Parce que c'est la première de toutes les Mnachot, sous-entendu en anglais, quoi. Af le Minchat Knaot, Abba Mina Seorim, même la Mincha qui vient de Seorim, la Mincha de la Sota. Cette Mincha, elle est en Seorim. D'accord? Ça, vous vous souvenez? On ne pourra pas utiliser, rapprocher les jeter à l'air. C'est marqué plusieurs fois. C'est marqué un peu plus bas. Veinif Kohen Otam, al lechem abekurim. C'est-à-dire, on parle ici des agneaux là qu'il faut amener en même temps. Al lechem abikurim, tu nous fais l'ifne Hashem. Lechem abikurim, toujours. Pour le pain de bikurim, c'est toujours la même chose. Mais lechem abikurim, c'est les. On appelle menachot tout ce qui est pain. Normalement, c'est pas très. Enfin, eux, ils faisaient des matzot aussi, ouais, grandes. Hein. Ils savaient faire des matzot très épaisses. Bon, le Tsemanim aussi, il y a des gens qui savaient faire des matzot. Même au Maroc, paraît-il, qui faisaient des matzot épaisses. Et sans qu'ils soient mangeables, parce que faire des matzot épaisses qui ne sont pas mangeables, c'est facile. Les matzot, il faut casser au marteau. Non, mais c'est ça. Donc c'est ça le bikurim, mais dans le korban, le bikurim c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas la mitzvah bikurim dont on va parler beaucoup plus tard. On parle pas du tout de bikurim dans ce cadre-là. Donc, Rashi, il a travaillé pour expliquer pourquoi ça s'appelle Bikurim. Vous avez entendu, Rashi a dit, c'est première, etc. Alors, par rapport à ce qu'on a toujours dit sur la notion de Bechor, avec le paradoxe que le mot Bechor, il s'écrit 222, bon. Alors là, on peut se demander pourquoi ces Bikurim-là, dire que le fils, il est un deuxième père pour la traduction, on comprend. Mais qu'est-ce qu'on va dire là maintenant sur ces bikourim-là? Pourquoi ça s'appelle bikourim? Pourquoi ça c'est la racine bet kaf resh? D'accord? En quoi est-ce que c'est un deuxième? En quoi est-ce que ces korbanot-là sont des deuxièmes? On pourrait dire que ce sont ils sont deuxièmes par rapport à l'ordre naturel. Parce que l'ordre naturel, c'est Seorim Pita. Dans la nature, en Eretz Israël, il y a d'abord l'orge et en second, il y a le blé. Mais pourquoi est-ce que, bien qu'il soit seulement deuxième, mais comme ce n'est pas un machal adam, comme ce n'est pas une nourriture humaine, alors c'est vrai que il est deuxième par rapport à l'ordre chronologique. Mais comme c'est humain, comme c'est construit, etc., Donc là, ça prime. Il devient premier. Il est premier, si on veut, parce qu'il est Machal Adam. Il est le premier de Machal Adam, de la nourriture humaine. Pour arriver à Shavuot, on a fait un compte. Là, comme on a dit, on a compté les jours, on a compté les semaines. Alors, on a compté, on compte 1, 2, 3, etc. Et il y a deux versions. Une version dans laquelle on dit aujourd'hui, c'est. On peut dire, c'est le 47e jour, qui sont 6 semaines et 5 jours, dans l'Omer, bas Omer, ou bien on peut dire 47 jours, la Omer, à l'Omer. Alors, ça fait référence à deux choses différentes. Si on dit bas Omer, dans le Homer. Ça veut dire qu'on a pris le nom du Corban qui est approché à Pessah, deuxième jour de Pessah, et il a donné son nom à toute la période qui s'ouvre avec lui et qui va se terminer avec Shavuot. Toute la période, tous les 49 jours en question, s'appelle Homer. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que personne ne dit Lag la Omer. Tout le monde dit Lag ba Omer. Même les gens qui comptent Lag la Omer, ils ont compté le soir avant, ils ont dit que c'était Lag, Lamed Gimel, 33, la Omer. Mais après, quand ils en parlent de cette journée, c'était à Lag ba Omer. Ba Omer. Personne ne dit Lag la Omer à ce moment-là. Donc là, on comprend, on avance dans cette période. Un, deux, trois jours dans cette période. Si on dit la Omer, ça veut dire on compte les jours avec lesquels on prend de la distance par rapport au Corban Omer. Je suis à un jour du Corban Omer, à 2 jours du Corban Omer. C'est-à-dire je m'éloigne du Corban Omer. Pourquoi on dit qu'on s'éloigne du Corban Omer? Pourquoi on devrait dire on rapproche de Shavuot? Alors, bon, la mitzvah, elle est, vous compterez l'Omer. C'est-à-dire, on veut qu'on compte comme ça. Et donc, si tu dis la Omer, alors ça veut dire que tu t'éloignes. Alors, c'est quoi l'idée de s'éloigner du Omer? Alors, avec ce qu'on a dit, si on dit que le homer, il est séorim, c'est une nourriture animale, je m'éloigne de la nourriture animale et je me rapproche d'une nourriture humaine. On s'éloigne de la nourriture animale, c'est-à-dire on s'éloigne de quelque chose qui est purement naturel, quoi, quelque part, si on veut. On est en train de construire quelque chose. C'est une vraie construction. Alors, l'un dit que la construction, elle passe par le fait de s'éloigner. Et l'autre dit, ben non, c'est la construction, c'est construire le positif. En vérité, on devrait presque dire les deux pour la raison suivante. On avait déjà fait remarquer que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient au 49e degré de Touma. Et quand ils arrivent au Sinaï, recevant la Torah, on dit qu'ils sont au 49e degré de Tahara. Mais pour passer de moins 49 à plus 49, il faut plus que 49 jours. Ça veut dire qu'on doit faire les deux, chaque jour, on devrait faire deux travaux différents. Un qui consiste à s'arracher au négatif, s'arracher, c'est être de moins en moins négatif, remonter de 39, 38, 37, etc. Et en même temps, le même jour, grimper aussi dans le positif, et peut-être correspondant, ça veut dire 35, 36, 37, etc. Donc on devrait faire les deux choses. Et donc, en vérité, ceux qui disent Bahomer, ils construisent. Donc, c'est comme si on faisait abstraction. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Puisqu'en vérité, on devrait faire un double travail et qu'on ne fait pas de double travail. On passe un jour, voilà. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu ne fait cadeau de l'autre. Donc il y a ceux qui disent Assez Tov, c'est-à-dire fais construis dans le positif. Et Hachem, il te donnera gratuitement en quelque sorte que tu vas te sortir automatiquement du négatif. Et d'autres disent non, il faut travailler sur sur s'arracher au négatif. Hachem te mettra au niveau positif. Okay. Donc, en fait, on devrait dire à la fois Bahomer et Laomer. Parce que Bahomer, ça me fait monter dans le positif, et Laomer, ça m'arrache au négatif. Donc, en fait, on obtiendrait les deux résultats. Et certains disent, ce qu'Hachem me donnera, c'est la sortie du négatif gratuitement. L'autre dit, ce qu'il me donnera, c'est le positif gratuitement. C'est un problème de sourmera. Là, c'est top. Est-ce qu'il faut d'abord s'occuper de sortir du mal pour ensuite faire le bien? Il y a d'autres qui disent non, fais le bien, ne t'occupe pas du mal. Il y a des gens qui disent assez top. Le reste, sourmera, ça veut dire ne t'en occupe pas. Pas sourmera, ça veut pas être loin de toi du mal, mais ne t'occupe pas du mal.
Dans les sociétés modernes, on a tendance toujours à vouloir s'arracher au mal en faisant des thérapies,
Ouais.
en ressassant tout un.
Et c'est là que l'on voit que l'importance des mitzvot positives, quoi. Fais des mitzvot, ça fait le travail. Ah, il y a du négatif. Bon, il faut aussi vouloir que ce négatif disparaisse. Mais peut-être il faut pas s'appesantir. C'est ça que Chazal, la Torah nous dit. Quand quelqu'un fait une faute, tu vois quelqu'un faire une faute, un Talmid Chacham faire une faute aujourd'hui, demain tu peux pas lui en faire le reproche. Parce que c'est sûr que le soir il a fait tchouva. Après, il a fait tchouva, c'est terminé. On te demande pas de t'appesantir là-dessus. Vous savez, à Yom Kippour, dans certains marzorim, le vidouille, il est chaque fois répété trois fois. C'est-à-dire que on fait un vidouille à chacun des amidot, d'accord? Confession à chacune des amidot. Et dans certains marzorim, marqué trois fois. Le Harizal, il dit faut pas le faire. Faut le faire, comme beaucoup de gens disent qu'il faut pas le faire. Et parce que ça ressemble à un chien qui retourne lécher son vomi. Quelque part, à répéter sans arrêt le vidouille. Ah, c'était pas si mal, hein, peut-être. D'accord? Ça veut dire ce qu'on a fait voilà. Il revient l'image de la faute. Elle revient quand on veut faire tchouba. Alors, quelque part, il faut repenser à la faute, se remettre un peu dans l'ambiance de la faute. Alors, une fois, c'est nécessaire parce qu'il faut bien faire bidouille, mais pas plus, quoi.
Et quand on me dit que c'est super bien la pose.
Non, parce que, alors, normalement, on doit détailler la faute quand on sait vraiment quelle faute. Parce que sinon, dire de façon générale, j'ai fauté, ça t'implique pas vraiment. C'est-à-dire, il faut quand même prendre conscience quel genre de faute j'ai fait. C'est pas la même chose T'as fait une faute réputée légère et t'as fait une faute sur laquelle on est friable Mita ou je sais pas ouais. Bon bah c'est pas la même chose, c'est pas c'est quand même bien de savoir quelle faute on a faite. Non, il faut pas. Non, non, mais faut savoir quelle faute on a faite. Voilà, on va s'arrêter là.